Ludovic Valadier, qui est des échos. Merci infiniment d'avoir présenté l'exposé. Excellent. Vous avez beaucoup développé votre relation avec l'éducation nationale, les régions. La question que je me pose, c'est quelle est votre relation avec l'enseignement supérieur et plus précisément la conférence des présidents d'université, les universités qui aujourd'hui forment en quantité beaucoup de jeunes et avec des formations qui ne sont pas forcément toujours en lien avec l'homme aussi.
Alors, deux points là-dessus. Effectivement, pour nous, c'est un sujet clé. On a, il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, signé une convention partenariat avec l'éducation nationale. Et que ce soit au niveau des rectorats, au niveau des académies ou au niveau des structures centrales, nous pousse à collaborer en permanence dans la construction des référentiels et l'adaptation des programmes. Et donc là, je parle principalement effectivement des diplômes qui vont du CAP jusqu'au bac professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place, qui fonctionne très bien. J'ai par exemple été visiter il y a une quinzaine de jours à Charleville-Mézières une plateforme, je dirais, de recherche, d'expérimentation et de formation sur tout ce qui est fabrication additive et pour lequel l'éducation nationale est totalement partie prenante. Et donc là, on est vraiment au travail et on a de très très bons résultats. Sur le deuxième point qui est celui de l'enseignement supérieur, j'étais hier dans les cours du ministère. L'équipe de la ministre, donc c'est tout chaud, et nous étions typiquement exactement sur cet enjeu-là. Je pense qu'on ne va pas assez loin sur cette partie-là. C'est un sujet à titre personnel que moi je connais très très bien, pour y avoir travaillé pendant des années. Je sais que les choses ne se feront que si on attaque, on va dire, la face nord par deux biais. Le premier, c'est l'expérimentation. Je crois assez peu à des grandes conventions, des grandes messes, pour faire des choses dans ce domaine-là, parce que je sais, bien évidemment, que tout passe par la conférence des présidents, et surtout l'initiative d'un certain nombre de présidents d'université. Quand on est à Charleville-Mézières et qu'on a monté, par exemple, notre centre, c'est parce qu'on a trouvé un accueil extrêmement favorable auprès de l'université de Reims, par exemple, qui, avec nous, a souhaité travailler sur ses filières et ses formations. Et là, on arrive à faire des choses formidables. Donc, il faut qu'on commence ce travail. Il est décembre, oui, ça va être bien matin. C'est tout chaud, mais il faut qu'on aille vite. On a aujourd'hui, je rencontrerai très rapidement, effectivement, le président des présidents des universités de France. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas au rendez-vous, collectivement. C'est une priorité. Alors, ça va évidemment avec les débats qui sont à l'ordre du jour. Hein. Mais l'expérimentation, j'y crois fondamentalement. C'est comme ça que les choses se font. On a également des réflexions dans le domaine de naval, dans l'ouest de la France, avec les universités de Rennes, par exemple. On est au travail là-dessus, il faut qu'on aille plus loin.
Je voulais juste prolonger la question éducative pour l'inscrire dans des réflexions peut-être plus larges. Il y a beaucoup de questions de réforme de l'université en ce moment et on sait qu'un des enjeux c'est d'orienter en dehors de l'université, d'orienter vers les filières professionnelles un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui se fourvoient dans des cycles universitaires. Je voulais savoir comment vous vous situiez, vous, par rapport à ce débat, et si vous aviez prévu une montée en puissance quantitative importante dans les années à venir du nombre de jeunes que vous formez chaque année.
Alors, plusieurs éléments de réponse. Je vous ai dit qu'on formait 42 000 jeunes en alternance et en apprentissage. Notre objectif, à assez court terme, d'ici 2 ans, c'est de monter à 46 000. Juste pour information, il y a 10 ans, nous étions à 5 000. Donc, si vous avez une structure qui, en France, sait un petit peu de quoi elle parle en matière de formation des jeunes alternance et apprentissage, vous êtes à la bonne adresse. Donc, notre objectif, c'est évidemment de monter en puissance si la future réforme nous en donne évidemment la capacité et les moyens, ce que nous allons observer de très près. Pour ce qui est de la formation effectivement à l'enseignement supérieur, j'en ai parlé à l'instant, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous dans ce domaine-là. Ayez juste à l'esprit que les besoins qui sont les nôtres dans les années à venir, ce sont des besoins évidemment en production, d'opérateurs, mais de plus en plus qualifiés, de techniciens de plus en plus qualifiés et d'ingénieurs, et principalement, bien évidemment, de femmes, puisque nous représentons que 20%. Les effets de l'industrie, c'est évidemment totalement insuffisant. Et donc, sur un certain nombre de filières, je n'ai pas le temps aujourd'hui sur lequel de revenir, nous sommes en demande massive, majeure. Encore faut-il effectivement qu'on puisse gérer les flux d'étudiants vers ce type de formation et que l'on puisse vérifier, et c'est là qu'on a évidemment un rôle et une mission à jouer, que les programmes des diplômes correspondants soient totalement adaptés à ce que les entreprises recherchent. Et là-dessus, bien évidemment, on va être en force de proposition.
Moi, je me demandais, Marielle Castès de Grand Paris Aménagement, je me demandais si vous avez des facteurs d'explication pour le solde positif de création d'entreprises constatées. Et d'après votre présentation, on comprend que c'est plutôt une tendance lourde qui s'est déjà mise en place depuis des années et qui a aussi un solde positif cette année. Et la deuxième question, c'était sur le fait de permanence, ça s'appelle l'ULMM, et on n'explique pas que derrière, c'est l'état d'urgence immobilier, dont on ne donne pas l'héritage du nom. Est-ce que c'est parce que vous avez identifié que les gens hésitaient à venir adhérer parce qu'ils ne s'identifiaient pas à l'allergie, par exemple, vous citez le secteur du luxe, où il y a beaucoup de chaînes industrielles et qui relèvent de cette problématique et qui peut-être ne s'identifient pas à ces cibles?
Alors, deux questions très différentes, je vais essayer d'aller très très vite dans les trois minutes qui me restent. Sur le premier point, l'évolution du contexte économique. 2008 a été un drame pour l'industrie française. Tous les indicateurs, vous les connaissez. Donc ça fait 10 ans que l'on essaye de retrouver le chemin de la croissance et du développement. Je disais tout à l'heure que ce chemin-là, on est en train de le retrouver depuis l'hiver dernier. C'est finalement assez récent. Avec en toile de fond, effectivement, des choses qui ont pesé en matière d'investissement, c'est une part de responsabilité. C'est pour ça qu'on est évidemment extrêmement attentif aujourd'hui à ce que la conversion du CICE, notamment en baisse de charge, puisse se faire dans des conditions qui soient satisfaisantes pour l'industrie française, qui, on le sait tous, gère plutôt des métiers qualifiés, des niveaux de rémunération qui sont supérieurs à ceux d'autres services, ils ne cherchent pas d'autres métiers, les services en particulier, ils ne cherchent pas à les opposer, c'est simplement factuel. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, a pesé dans la capacité des entreprises, effectivement, d'une part à redresser leur marge, d'autre part, effectivement, à retrouver le chemin des investissements, ce qui est le cas actuellement, les indicateurs nous montrent, et derrière, évidemment, le redressement des marges d'investissement, il y a l'emploi. Donc ça y est, on y est, c'est la bonne nouvelle, depuis cet été, et donc on sent bien maintenant, si les conditions, je dirais, économiques nationales et internationales demeurent favorables, orientées favorablement, on sent bien qu'on est sur un mouvement de fond qui va nous mobiliser maintenant pour, je l'espère, plusieurs années, en tout cas 2 ou 3 ans d'après les prévisions que l'on peut avoir. L'autre point qui est extrêmement important, c'est que l'activité mondiale et internationale est très très forte et que nos entreprises, au cours de ces dernières années, du fait de la crise en France notamment, ont appris à exporter de plus en plus, même si malheureusement la balance commerciale n'est pas encore au niveau attendu. Il ne faut jamais oublier que 80% général de cette balance commerciale est alimentée par la capacité de nos entreprises industrielles à faire une partie du travail. Donc on est évidemment extrêmement mobilisé là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à se faire commander, nous, nous-mêmes, parce qu'on n'est pas en mesure de délivrer les compétences de l'entreprise de besoin. Il va falloir aller très vite, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette opportunité-là. L'autre sujet est sur la marque. UMM, pas UMM, vous m'avez dit.
Si l'objet de dire que maintenant c'était un sigle à part entière, c'était de gommer cette référence à l'historique.
Plusieurs choses là-dessus. D'abord, quand j'ai pas mal échangé ces derniers mois avec des créateurs d'entreprises, start-up, qui s'interrogeaient de façon légitime, comme font évidemment toutes les nouvelles générations aujourd'hui, il n'y a rien qui va de soi sur rien, ça ne vous a pas échappé, sur l'opportunité de rejoindre la métallurgie, puisque c'est comme ça que nous appelons, nous en sommes fiers, dans le cadre de métiers qui peuvent être assez périphériques aux nôtres. Un chef d'entreprise me disait récemment qu'il avait consulté 35 conventions collectives que tous ces banquiers, conseillers, consultants, etc. l'avaient orienté vers le Syntec, assez naturellement, parce qu'ils étaient sur des nouvelles technologies, sur des services, et naturellement, après une étude approfondie, il était revenu vers la Convention collective de la métallurgie, pensant que c'est elle qui lui offrait le maximum d'opportunités pour développer son entreprise. Donc, c'est ce qui explique, d'ailleurs, en partie, l'extraordinaire palette, je dirais, de métiers qui sont les nôtres, et qui font que, à travers notamment le chantier qu'on est en train d'ouvrir, peut-être que demain, après-demain, et peut-être que je le verrai jamais, la plateforme finalement sociale qu'on est en train de créer, la fameuse réforme réglementaire sur laquelle nous sommes actuellement, pourrait être en capacité d'accueillir demain, non seulement la métallurgie, mais peut-être d'autres secteurs de l'industrie, et peut-être tous les secteurs de l'industrie, à travers effectivement une marque qui pourrait être, et ne le dit jamais, c'est qu'un secret ne peut pas être partagé, la fabrique de l'avenir. Tout simplement. Et d'ailleurs, ce qu'ont repéré les Français dans la communication qui est la nôtre aujourd'hui, lui-même, très honnêtement, ne change pas le cours de leur existence. Il ne changera pas le cours de leur existence. En revanche, la fabrique de l'avenir, visiblement, a intéressé les Français dans cette capacité, les questions qui se posent sur y a-t-il une structure qui est en capacité d'eux, et je ne reprends pas les enjeux de tout à l'heure, sur l'emploi, sur l'innovation et sur l'environnement. Donc c'est ça qu'on va essayer de creuser petit à petit. Il faut y aller par étapes. Typiquement, le chantier des classifications, là, qu'on va essayer de refermer proprement en quelques jours, est un sujet ou un référentiel qui est totalement industrie compatible, quel que soit le métier qui est le nôtre. Et j'ose pas aller plus loin sur la question qu'on posait sur d'autres métiers ou d'autres activités assez éloignées des nôtres, mais le référentiel que l'on est en train de créer est un référentiel qui, pour beaucoup d'observateurs, est parfaitement compatible avec de multiples activités. En ce qui correspond aux enjeux de l'entreprise d'aujourd'hui, tout simplement, de l'entreprise, et des nouvelles générations de salariés. Voilà, mais là je fais un peu de prospective, peut-être qu'on ne verra jamais, mais en tout état de cause, c'est possible. Sur le papier. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une dernière avant de.
Oui, bonjour, Yannick Vissouze, de la communauté urbaine de Dunkerque, territoire d'industrie. Vous nous avez évoqué un certain nombre de secteurs, enfin, une dynamique globale hein, des entreprises que vous rassemblez, des secteurs d'activité qui sont en pointe en France, donc vous avez parlé de l'aéronautique. Pour autant, la France est un pays moins industriel que l'Allemagne ou même que l'Italie. Hein. Quels sont les marchés sur lesquels vous pensez que nos entreprises vont pouvoir se positionner de manière prometteuse pour l'avenir? En clair, est-ce qu'on va regagner des secteurs stratégiques qui nous ont échappé dans les décennies passées?
Alors, c'est un peu, pour l'instant, c'est encore compliqué de répondre précisément à cette question. La filière aéronautique, la filière navale, la filière mécanique, notamment de précision, la filière électromécanique, la filière des transports sur un certain registre sont des filières sur lesquelles aujourd'hui l'industrie française est particulièrement bien positionnée. On sent naître, parce que j'ai la chance de passer pas mal de temps dans les territoires, énormément d'initiatives. Les Français sont extrêmement créatifs, les ingénieurs français sont plutôt très bons, certains disent parmi les meilleurs au monde. Je suis assez près de penser que c'est vrai. Et donc, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives sur des petites ou des moyennes entreprises aujourd'hui qui ne font pas encore le flux ou le flot, je dirais, d'un courant général. Mais dans le domaine de l'automobile notamment, on voit des choses extrêmement intéressantes aujourd'hui. Regardez le redressement de Renault et PSA aujourd'hui, c'est spectaculaire. Je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, d'aller visiter les usines de ces grands groupes. C'est totalement passionnant et très honnêtement, nous n'avons pas à bouger de ce qu'est en capacité aujourd'hui de proposer à l'industrie française à travers la qualité de ses ingénieurs et ses techniciens notamment. Donc on sent qu'on est, je dirais, à la croisée des chemins. On l'a dit tout à l'heure, on est sans doute effectivement en train de revivre une aventure qu'on attendait depuis des années. On a un outil industriel qui peut le permettre. On a néanmoins un retard accumulé par rapport aux Allemands qui est gigantesque. La robotique en Allemagne, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont au travail. ça va venir en France, on est encore loin, il faut juste avoir à l'esprit que les Italiens sont devant nous. Voilà, il y a évidemment énormément de travail à faire. C'est la raison pour laquelle on est évidemment extrêmement attentif à toutes les réformes que nous propose l'État. On est prêt également et disposé, vous l'avez compris ce matin, à prendre l'ensemble de nos responsabilités sur ces enjeux-là. Il ne faut pas qu'on manque le tournant qui est en train actuellement d'être celui de notre industrie française. Et on est là pour ça, on est extrêmement attentif. Mais beaucoup de très très belles choses en gestation aujourd'hui en France. Et je dis bien partout sur l'ensemble des territoires. Y compris à Dunkerque que je connais.
Écoutez, je vous remercie. Voilà. Je crois qu'on va être obligé de.
Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et merci encore pour votre présence au menu aujourd'hui.
Merci à vous.